Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Dans le cadre de nos émissions Écho de ma commune, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui deux personnalités de notre musée des beaux-arts et d'histoire naturelle. Madame Mireille, bienvenue. Bonjour Mireille. Et Madame Anna Rodriguez, bonjour Anna. Et Madame, bienvenue, est conservatrice en chef. Et Madame Rodriguez est spécialement en charge de la partie qui comporte l'histoire, la nature et la biologie. Alors, donc cette année, votre exposition temporaire a pour thème la nature au fil des saisons. Pouvez-vous nous préciser tout cela ?
Oui, donc cette année, nous avons, après une exposition qui était plus dédiée à l'art, nous avons choisi de présenter la nature au fil des saisons avec trois volets. C'est-à-dire, nous nous adaptons à chaque fois à ce que le visiteur peut aussi découvrir dans la nature. Donc, le premier volet de cette de l'année est consacré aux amphibiens, donc a débuté le 9 février et va jusqu'au 2 juin. Nous aurons ensuite une partie qui est dédiée, qui s'appelle les bords de mer, donc là plutôt la partie estivale, hein, qui va du 8 juin au 22 septembre. Et nous terminerons par Promenons-nous dans les bois, donc à partir du 28 septembre jusqu'au 15 décembre. Et là, ce sera plutôt l'occasion effectivement de découvrir ce qui se passe à l'automne en forêt ou dans les bois et de découvrir ce que font les animaux, les arbres, le feuillage, comment les animaux vont s'adapter à l'hiver qui arrive.
Donc, selon les trois saisons, printemps, été et automne.
Voilà, tout à fait.
Alors, quelles sont les particularités donc, de ces amphibiens que vous avez exposés donc, au premier étage de notre musée, avec de belles cartes pour bien expliquer tout cela. Et nous avons bien apprécié d'ailleurs nous-mêmes la visite avec Jean-Marie qui est à la technique et Henri qui vous interview.
Bonjour. Les amphibiens, ce sont des animaux qui ont la capacité de vivre aussi bien dans l'eau que sur terre. Et pour justement vivre dans l'eau, ils ont une peau extrêmement fine qui leur permet d'absorber l'oxygène au travers de la peau. Ça va directement dans les vaisseaux sanguins qui affleurent à la peau. Excusez-moi.
Donc, ils n'ont pas besoin de branchies, du moins lorsque la mue est faite et que...
Lorsque la mue est faite, non. Voilà, les poumons sont développés. Oui. Donc, ils vont pouvoir se déplacer hors de l'eau. Et lorsqu'ils sont hors de l'eau, ils ont plusieurs, adaptations qui leur permettent aussi bien, lorsqu'ils vont dans l'eau, de s'adapter à ces éléments-là, c'est-à-dire la peau qui va s'affiner. Donc pouvoir respirer sous l'eau quand ils sont en hibernation. Par exemple, pour beaucoup de grenouilles, elles hibernent dans la vase. Et puis ensuite, lorsqu'elles vont vivre une partie de leur vie terrestre, leur peau va s'épaissir. Et puis, pour pouvoir supporter la dessiccation aussi, elles sécrètent une sorte de muscus. C'est pas vraiment muscus, mais pour protéger la peau. Et elles ont des poumons, évidemment, pour pouvoir respirer hors de l'eau.
Alors, vous avez évoqué l'hibernation et aussi les problèmes de chaleur. Est-ce que, comme nous, elles fabriquent de la chaleur quand elles ont besoin ou...
Non. Alors, les amphibiens, tous les amphibiens ont une température variable, ce qu'on appelle ectotherme, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de s'adapter. Leur température dépend de la température externe. Voilà. Lorsqu'il fait 0 degré, leur température du corps est à 0 degré. S'il fait un peu plus chaud, c'est à peu près l'équivalent de la température extérieure.
Ce qui explique que pendant l'hiver, quand il fait froid, elles hibernent en se mettant dans la vase où il fait moins froid.
Voilà.
Et là, elles vivent au ralenti.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça a ralenti à un tel point que, par exemple, les battements du cœur sont de 1 à 2 battements par minute, donc c'est très peu. Et puis, la respiration peut complètement se bloquer, c'est-à-dire que les animaux ne respirent plus. Les échanges se font au travers de la peau dans l'eau, mais il y a des amphibiens, comme par exemple certains crapauds, qui vont hiberner dans des terriers sous la terre ou sous des souches d'arbres. Et là, c'est pareil, le corps va s'adapter à la température extérieure. Alors, ils vont hiberner parce que il fait froid. Et par ailleurs, les animaux qui ont l'habitude de se nourrir ne sont plus là. Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas le choix.
C'est ça, ils ne trouveraient plus rien à manger.
Tout à fait, oui.
Quand même, la nature est bien faite. Hein.
Oui, tout à fait.
Là-haut, le créateur, on peut de temps en temps le féliciter.
Bah, c'est surtout l'évolution.
S'ils sont en capacité donc de s'adapter, comment est-ce qu'ils se reproduisent aussi?
La reproduction, pratiquement pour tous les amphibiens, je dis pratiquement, se fait dans l'eau. Au printemps, les amphibiens vont se réveiller de l'hibernation et la première réflexe de ces animaux, c'est la reproduction. Donc, ils vont se retrouver dans des sites précis. Ça va être souvent les mares, souvent celles dans lesquelles ils sont nés. Les mâles vont se réveiller en premier pour aller tout de suite sur le site de reproduction. Et ils vont attendre les femelles. Beaucoup vont émettre des vocalises pour les attirer. Les vocalises sont très différentes en fonction des espèces pour justement éviter de l'hybridation. Et lorsque les femelles arrivent sur place, alors je parle pour les anours, c'est-à-dire tout ce qui est crapaud et grenouille, le mâle va attraper une femelle au passage. Il va la maintenir sous les bras ou à l'arrière du corps, en fonction des espèces. Et puis, dans l'eau, les animaux, le mâle va caresser le ventre de la femelle pour qu'elle émette ses œufs. Et le mâle va féconder les œufs au fur et à mesure qu'ils sortent du ventre de la femelle. Soit les œufs vont être en gros paquets, c'est la plupart des grenouilles. Et chez les crapauds, c'est dans une sorte de cordon, deux cordons qui sont accolés l'un à l'autre. Pour certaines espèces, comme par exemple les tritons, c'est des œufs pondus isolément, placés sous des feuilles ou carrément ils tombent dans l'eau. Et ensuite, après la fécondation, les embryons vont se développer et puis naître sous forme de têtards pour les grenouilles et les crapauds, alors que les tritons, ce sont des animaux en miniature avec des branchies. Donc ça ressemble à vraiment des petits tritons, mais avec des branchies.
Oui.
Oui, voilà, ça ressemble à des adultes. Et pour la salamandre, elle met bas, c'est-à-dire qu'elle donne naissance directement à des larves.
Oui, donc vous avez fait la distinction, grenouilles et crapauds n'ont pas de queue,
voilà.
Du moins à l'état adulte, alors que tritons et salamandres conservent leur queue.
Voilà, c'est ça. C'est le mot urodèle qui dit que voilà, ce sont des animaux qui portent une queue, aussi bien à l'état larvaire qu'à l'état adulte.
Voilà. Tout ça vient des mots grecs, uro, ou c'est la queue.
Voilà.
Et d'elle, ça veut dire je vois, visible.
Voilà.
Alors que.
Anour, a est privatif et
voilà,
nous.
Sans queue.
Voilà.
Bon, un petit moment musical. Thank you. avons reconnu pour cet intermède musical la quatrième saison, l'hiver de Vivaldi. Et nous reprenons, puisque nous sommes encore en hiver, à la fin de l'hiver, notre entretien sur les amphibiens. Les grenouilles ont leur salive a une particularité qu'on vient de mettre en évidence. Racontez-nous.
Ah oui, c'est assez extraordinaire. Il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ce problème, à savoir comment les grenouilles arrivaient à capturer les insectes et surtout arrivaient à les garder collés sur la langue. Et ils ont fait des études sur la qualité de cette salive, c'est-à-dire qu'elle est de qualité non newtonienne, c'est très difficile à dire. En fait, elle va changer de consistance en fonction de la manière dont elle est utilisée. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dans la langue, dans la bouche, la salive est, comment dire, visqueuse. Et lorsque l'animal projette la langue sur un insecte, d'un seul coup, elle va devenir extrêmement liquide, se répartir sur l'insecte. Et au moment où la grenouille ramène sa langue, d'un seul coup, cette salive liquide devient plus solide et donc colle carrément l'insecte à la langue, et ensuite, lorsqu'elle la ramène sans difficulté dans la bouche, la salive est toujours visqueuse. Donc, pour pouvoir décoller l'insecte de la langue, la grenouille va ramener ses yeux vers l'intérieur de la bouche, et ça donne une pression, comme la langue qui va donner une pression pour capturer l'insecte, ça a le même effet inverse. C'est-à-dire que la salive redevient liquide et du coup libère l'insecte et elle va pouvoir avaler l'insecte.
C'est vraiment mon bras, chapeau pour les scientifiques qui ont mis tout cela en évidence.
Oui, oui, c'est assez étonnant.
Mais alors, à quoi servent nos chères grenouilles et autres amphibiens? On dit que déjà, c'est bon de manger des cuisses de grenouilles. Les Anglais ne sont pas toujours d'accord avec nous, à moins qu'ils aient changé. Ils nous trouvent très, très particuliers, les Français, d'avoir de telles mets. Et comment se situe dans l'écosystème donc la présence de cette classe de ces amphibiens?
Ils ont un rôle non négligeable de justement se nourrir d'insectes en priorité, en majorité. Et donc, il y a parmi tous ces insectes-là, il y a les moustiques, mais il y en a bien d'autres. Et certains peuvent être néfastes à l'agriculture. Donc, ils vont débarrasser des insectes, on va dire, dits nuisibles pour l'agriculture. Et puis, ils jouent un rôle dans l'écosystème aussi en étant eux-mêmes des proies. Si les amphibiens disparaissent, et d'ailleurs ils sont en grand danger de disparition pour la plupart, c'est toute une chaîne qui va disparaître de notre environnement. Donc aussi bien on va avoir des insectes qui vont pulluler, oui. Et puis des prédateurs qui sont très spécialisés de ces animaux-là disparaître. Donc c'est un enchaînement de cause à effet qui peut être dramatique.
C'est sûr, par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont transmises par les insectes. Si on pouvait former des bataillons de grenouilles pour exterminer.
D'ailleurs, en Inde, pendant des années, ils ont capturé des grenouilles justement pour l'importation, pour que nous, on puisse les manger. Mmh. Et au détriment justement du travail que font ces amphibiens en mangeant les insectes. Et maintenant, il est interdit en Inde de justement capturer ces amphibiens. Enfin, pour la plupart, ce sont des grenouilles, et notamment la grenouille rieuse. Et maintenant, ils utilisent ces amphibiens pour justement dans les rizicultures, pour éviter que les insectes ravagent les cultures de riz.
On parlait de la salamande, c'est un peu d'histoire. Quand on visite nos châteaux de la Loire, on voit à la salamandre l'emblème de François Ier. Est-ce qu'on sait pourquoi, à cette époque, la royauté a choisi cet animal comme... référence.
Je vais émettre une hypothèse parce que je n'en suis pas certaine. Je crois que c'est lié à l'histoire de la salamande qui va éteindre le feu. Mais je pense que... Non, je ne saurais pas trop répondre à cette question.
Bien, qu'on n'hésite pas. Certains de nos auditeurs s'y savent, qui nous disent. On sera très heureux de transmettre tout cela à notre équipe du musée. On a parlé donc d'une menace d'extinction. Et pour cela, il y a quelques années, d'ailleurs, quelques dizaines d'années, quand on a construit l'autoroute entre Tours et Angers, et Tours et Le Mans, et donc il y a eu des problèmes. Il a fallu créer, des crapauducs pour que les crapauds puissent migrer. Est-ce que les migrations se font au loin ou ça dépend?
Alors, les migrations vont pas tarder. Enfin, elles ont déjà débuté pour certaines espèces de grenouilles, notamment la grenouille rousse, parce que c'est la première qui se réveille dès le mois de février. Hein. La grenouille rousse se réveille très tôt de l'hibernation. Et là, elles entament des grandes migrations pour aller vers leur site de reproduction. Et c'est presque des autoroutes à grenouilles qui vont traverser d'ailleurs les routes. Et là, c'est vraiment l'hécatombe parce que c'est parfois sur des routes avec un trafic routier assez important. Et un nombre très très important de grenouilles et de crapauds se font écraser par ce trafic. Et donc effectivement, il y a une association d'ailleurs Eure-et-Loir Nature qui a mis en place en Eure-et-Loir un système de ramassage des crapauds et des grenouilles pour les emmener vers le site de reproduction sans leur permettre de traverser la route. Pour justement, on les empêche de traverser la route par un système de barrage et les animaux tombent dans des seaux. Et donc les bénévoles récupèrent ces animaux-là pour les porter vers les sites de reproduction. Et notamment entre Lèves et Saint-Piat, c'est une zone qui est très importante de migration, notamment des crapauds, parce que les animaux descendent des bois pour aller dans le bas de la vallée, pour aller dans les mares. Et donc là, on a mis en place un système pour récupérer ces animaux et leur permettre de traverser en toute quiétude dans les seaux, tout simplement.
Ils ne migrent pas forcément très loin, non. Mais ils traversent des passages dangereux.
Voilà.
Qu'il faut, et éventuellement, quand on a repéré un peu leur trajectoire, de créer des tunnels, est-ce que c'est valable ou pas, sur la route?
Oui.
Est-ce qu'ils savent emprunter le tunnel?
Ah oui, complètement, oui. Parce qu'après, c'est un système de sorte d'entonnoir qui va diriger naturellement les animaux vers ce crapauduc. Donc normalement, j'ai cru qu'il y avait un projet de crapauduc justement sur ce site-là, entre Lèves et Saint-Pierre. Et après, il y a d'autres zones où des bénévoles vont capturer les animaux sur d'autres sites pour les emmener vers les lieux de reproduction. Mais il n'y a pas que le trafic routier qui est un danger pour les amphibiens. Hein. Ils rencontrent énormément de dangers, notamment tous les assèchements de zones humides, les comblements des mares. Ça, c'est une catastrophe pour ces animaux-là. Après, vous avez tous les produits chimiques utilisés diversement qui vont vraiment intoxiquer l'eau. Oui. Et ça, comme la peau, je vous expliquais, était très fine, ça passe au travers de la peau et les animaux meurent intoxiqués par tous ces produits.
Donc, si on ne veut pas être envahi par les insectes, il faut qu'on protège nos amphibiens.
Exactement. Donc, il y a plein de systèmes pour justement permettre aux animaux de toujours subsister. Ça peut être créer une mare dans son jardin, simplement. Créer des abris, des refuges pour qu'ils puissent s'y installer.
Nous allons poursuivre l'audition de notre concerto de Vivaldi. Thank you. Nous poursuivons notre entretien sur l'exposition actuelle au musée de Châteaudun sur les amphibiens. Alors, donc, il y a des belles images, des belles photos avec des explications. Et aussi, vous avez pu réaliser des moulages parce qu'on peut difficilement amener des amphibiens vivants qui sautent dans des cages.
Alors oui, effectivement. Donc déjà, un animal, un crapaud naturalisé, ça donne un résultat qui n'est pas très, très réaliste. Donc nous avons au musée quelques spécimens anciens que nous avons fait le choix de ne pas les présenter. Et à l'inverse, que le visiteur peut découvrir, ce sont des moulages qui, là, rendent bien le côté brillant, effectivement, légèrement humide de la peau. Ça, et les couleurs, au moins, sont réalistes. Et également, donc, c'est difficile d'avoir ces animaux vivants en captivité pour toutes sortes de raisons techniques, de législation et pour recréer un biotope et au niveau de au niveau également de la saison, ce serait pas possible par exemple d'avoir des têtards en ce moment, ils sont pas encore nés. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a que des moulages, mais qui sont très très réalistes et qui permettent, qui sont à grandeur nature et qui donnent vraiment au public une vraie dimension de ce que sont ces animaux.
Et dans ce contexte de votre exposition, vous avez convié des élèves, des enfants de l'école primaire à réaliser des ateliers.
Alors donc on a plusieurs choses. On propose aux enseignants de venir découvrir avec leur classe, hein, ce que nous faisons tout au long de l'année pour chacune de nos expositions. Là on a fait aussi des ateliers donc créatifs le mercredi pendant les petites vacances pour proposer aux enfants individuellement de réaliser des choses autour des. Là ils ont dessiné des grenouilles, hein, sous différents supports. On a proposé également une conférence à la médiathèque et pour justement apporter ce côté vivant, on propose une animation nature à la mare du Bois des Gades. Donc ça aura lieu le samedi 25 mai. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. La seule chose qu'on demande, c'est que le public s'inscrive au musée. Ça nous permettra à nous de mieux gérer le groupe, les flux et une qualité de visite adéquate.
Voilà. Et pour cette... On vous remercie parce que vous avez pu faire venir une conférencière qui est spécialiste des amphibiens et qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris et qui a, au niveau de la médiathèque, de la salle de la médiathèque qui est bien organisée en sous-sol, plus que le musée lui-même, qui a parlé des comportements des grenouilles, des crapauds et autres anours sans queue et parler de leurs amours en particulier.
Oui, tout à fait. Donc c'est Françoise Sercollet qui a fait cette animation, donc elle est médiatrice au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et sa spécialité effectivement c'est de parler de ces animaux qu'elle photographie, qu'elle étudie et avec lequel elle est très à l'aise.
Avez-vous encore quelques remarques à faire sur l'exposition ?
Bien, les personnes ne verront pas que des amphibiens, puisque sont présentés également la majorité des prédateurs des amphibiens, avec quelques prédateurs spécialisés, comme par exemple la cigogne, qui est assez connue du public. Elle mange énormément de grenouilles. Après, vous avez des évocations de certains amphibiens sous support photographique, comme par exemple les coléoptères qui vivent sous l'eau, comme les dytiques, sous forme adulte ou sous forme de larves. Et puis, il y a aussi des photos d'une sorte de punaise qui s'appelle la nep. On présente aussi également un moulage d'une couleuvre à collier et puis d'autres reptiles qui sont sous forme photographique pour avoir un panel assez le plus large possible de tous les prédateurs qui se nourrissent des amphibiens.
Donc, elles sont menacées de nombreux côtés, nos grenouilles.
Oui, mais d'une manière naturelle par les prédateurs auxquels elles font face par une reproduction assez importante. C'est pour ça qu'une grenouille va être capable de pondre entre 2000 à 3000 œufs. C'est pour compenser justement les pertes dues à la prédation. Par contre, les pertes dues à l'intoxication, là, c'est beaucoup plus difficile d'y remédier.
Mais les têtards, j'imagine que les poissons doivent se régaler avec les têtards.
Oui, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on crée une mare dans son jardin, ne jamais y introduire des poissons, parce qu'on ne maintiendra pas ces animaux dans la mare. Là, il faut absolument bannir toutes sortes de poissons, des marques qu'on veut dédier à ces animaux.
Ils sont aussi le témoignage d'une qualité de l'eau, parce que lorsqu'on les voit et qu'ils sont présents, c'est aussi un indicateur pour nous, humains, sur la qualité de l'eau et du milieu environnant.
Et la durée de vie des grenouilles.
Là.
La
durée de vie, c'est à peu près entre 10 à 20 ans selon les amphibiens. Ouais, ça peut être assez long.
Oui. Parfois, je crois, des très grosses grenouilles, mais pas en France.
Ah oui, alors le problème aussi des amphibiens, c'est l'introduction d'espèces qui n'étaient pas présentes à l'origine en France, comme la fameuse grenouille taureau qui a été introduite pour différentes raisons en France. Et puis, on en a relâché, certaines personnes en ont relâché un peu partout, ce qui fait qu'elle, c'est une grenouille qui est d'une très grosse taille et qui va s'attaquer elle-même à d'autres amphibiens. Donc elle va se nourrir d'autres grenouilles, qu'elles soient adultes ou sous forme de têtards. Et là, c'est vraiment une catastrophe, là, du coup. Et puis, il y a une autre grenouille qui n'est pas présente dans l'exposition, même sous forme photographique, qui est le Xénope, qui est une grenouille qui a été utilisée pendant de nombreuses années comme test de grossesse. Et puis, à un moment donné, ou après, les tests de grossesse ont été beaucoup plus performants que la grenouille, et ben, ces animaux ont été aussi relâchés dans la nature et sont porteurs d'une maladie. Enfin, c'est un champignon qui a dévasté certaines populations dans certains secteurs de France.
Et d'où viennent ces grenouilles taureaux? De quel continent?
Alors, c'est l'Amérique.
Oui.
L'Amérique du Nord.
Mais c'est vrai qu'elles sont très très grosses, hein, parce que c'est pratiquement une dizaine de fois la petite grenouille de chez nous. Même le têtard est très impressionnant, puisqu'il est pratiquement la taille de certaines grenouilles adultes qu'on peut avoir chez nous, hein, alors que c'est encore un jeune.
Et nos grenouilles communes, il y a une photo où les joues se gonflent comme deux airbags. C'est pourquoi? Que se passe-t-il?
Alors, ce sont les mâles qui ont cet apanage-là. Et ces sacs vocaux, alors ils peuvent en avoir qu'un seul, c'est-à-dire sous la gorge, et puis un de chaque côté des joues. Et ils servent d'organes de caisse de résonance, ça amplifie les sons et dans ce sens, les femelles vont entendre bien plus loin l'appel des mâles.
Voilà donc cet attribut, son utilité.
Son utilité, oui. Et en plus de ça, les femelles vont se diriger vers les mâles qui chantent le plus fort.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre exposition. Et donc on rappelle que le samedi 25 mai, on pourra au Bois des Gards étudier une mare et tout ce qu'il y a dans la mare et autour de la mare. Mais pour cela, il faut impérativement avant s'inscrire à notre musée pour bien organiser la journée.
Voilà.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.